l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Dixième jour du mois d'août 2026, merci de nous avoir choisi pour vous informer ce matin. À 6h passées de 15 minutes à Bukavu et à Lumbishi en territoire de Kalehe. D'abord, les titres de cette édition du journal. À la une de l'actualité, dans cette édition du journal, pas d'habitants depuis le vendredi dernier au centre de Lumbishi en territoire de Kalehe. Les habitants ont vidé les lieux après des bombardements qui ont provoqué la mort d'au moins 7 personnes et une dizaine de blessés pris en charge au centre hospitalier de Numbi. Au sommaire également, création d'un fonds urbain d'indemnisation des victimes de l'insécurité, le mouvement citoyen Machozi ya Raia a ouvert à Lens ses plaidoyers dans un contexte marqué par la recrudescence de l'insécurité dans cette ville à forte présence militaire. Les responsables de ces structures citoyennes évoquent notamment les soucis de protéger la vie et les biens des citoyens, une responsabilité de l'État. Et un sport tournoi de football dénommé Champions League organisé au terrain de Founou en commune de Kadoutou. Le FC Kadjangou est sacré champion après sa victoire en finale samedi face à GSP Sport sous le score de 2-1. Voilà tout pour les minutes de l'actualité ce matin. Radio Mandeléo en plusieurs lettres, le journal en trois titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue.
Ce journal vous est présenté par Héritier Boroto.
Les centres de Lumbishi et ses environs dans les hauts plateaux de Kalehe restent vidés de leurs habitants depuis le vendredi dernier. Ceci après des bombardements qui ont provoqué la mort d'au moins 7 personnes et une dizaine de blessés qui sont pris en charge au centre hospitalier de Numbi, Expédé Diallo.
Des défenseurs des droits humains contactés dans la zone indiquent que les militaires de l'AFSAM-23 qui contrôlent le centre de Lumbishi auraient conseillé aux habitants de rester loin de leur maison, estimant que la situation sécuritaire n'était pas rassurante. Les habitants de cette entité ont préféré se concentrer plutôt vers Numbi, Shanje et Kavumu, Ruzirantaka, indique un responsable d'une église locale contactée. Sous les lignes de front Aziralo, la situation reste volatile, indique notre source qui évoque néanmoins que la zone est sous forte surveillance militaire autant du côté FSAM-23 que celui des FARDC et leurs alliés au Azalendo. Rappelons que lors des nouveaux combats comme Aziralo, une bombe tirée de loin a explosé au centre de Lumbishi pendant que les activités commerciales commençaient à prendre de l'ampleur aux environs de 10 heures. 5 personnes ont été annoncées mortes sur place et 2 autres ont succombé à leurs blessures pendant qu'elles poursuivaient des soins. Des défenseurs des droits humains dans la zone continuent de dénoncer l'utilisation de la violence dans des zones à forte concentration des civils non armés, invitant ainsi les partis à faire preuve des retenues dans leurs actions. Entre temps, dans le territoire de Fizi, c'est une accalmie qui s'observe sur les lignes de front. Des sources signalent néanmoins un mouvement important des forces armées de la RDC et leurs alliés vers l'Ulimba et le secteur de l'Ulenge où une réorganisation serait en cours, indique une source dans la zone. L'on signale par ailleurs des accrochages entre factions armées qui provoquent une instabilité sécuritaire dans certains villages. C'est notamment à Kaboke 2, dans le groupement des Vassimukuma Nord, où les éléments du général autoproclamé William Merkutumba et ceux de Ngomanzito se sont accrochés le week-end dernier. Un chauffeur a été atteint par balle, indique une source locale contactée.
Et pendant ces temps, la libération de 15 prisonniers par les gouvernements de la RDC au profit de la FCM-23 constitue un signal d'un début de mise en œuvre des engagements pris par les deux parties engagées dans les processus de Doha. Telle est la pensée d'Ignace Mupira, analyste sociopolitique et député national honoraire. À l'en croire, ces gestes prouvent que la FCM-23 et le gouvernement de la RDC poursuivent les contacts, ce qui est bénéfique pour le retour de la paix. Il invite la FCM-23 à manifester à son tour sa bonne foi en libérant aussi des prisonniers. Ignace Mupira en parle.
La libération de 15 prisonniers, pour moi, augure d'un avenir, bon, je ne dirais pas radieux, mais c'est un début du commencement de la mise en œuvre des accords que l'AFCM-23 et le gouvernement ont signés à Doha et même à Montreux. Cela signifie qu'ils continuent les contacts entre eux, ce qui est bénéfique pour le retour de la paix. Et donc, comme c'est un mécanisme réciproque, il est important qu'on apprenne également que l'AFCM-23 libère les prisonniers des FARDC et des personnalités qui seraient arrêtées exilés du côté de Goma qui rentrent à Kinshasa retrouver leur famille. Mais naturellement, les personnalités proches ou supposées être proches du M23 qui sont arrêtées à Kinshasa sont plus nombreux que les 15 personnes qui ont été libérées. Mais nous souhaitons que ce processus-là puisse continuer. Ça signifie qu'ils continuent à se parler. Ça signifie que les mesures de crispation peuvent se poursuivre. C'est ce que les acteurs souhaitent.
Et précisons que selon certaines sources, une nouvelle rencontre entre les représentants de l'AFC M23 et ceux du gouvernement congolais serait envisagée en Suisse vers la fin de ces mois dans le cadre de la poursuite des discussions pour la paix. Et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, le mouvement citoyen Mathios Iaraï à Uvira plaide pour la création d'un fonds urbain d'indemnisation en faveur des victimes de l'insécurité. Cette proposition intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des actes d'insécurité dans cette ville où la forte présence militaire est devenue source d'inquiétude pour les habitants. Pour Moussa Ali Routamou, coordonnateur provincial de cette structure citoyenne, la protection de la vie et des biens des citoyens relève de la responsabilité de l'État. Il estime que les familles des personnes tuées ou grièvement blessées à la suite du banditisme armé ou d'autres crimes liés à l'insécurité ne devraient pas être abandonnées. La mise en place de ces fonds devrait notamment permettre la prise en charge des frais funéraires, assurer une indemnisation équitable des ayants droit et offrir un accompagnement psychologique et social aux familles touchées. Moussa Ali Routamou recommande également une assistance juridique gratuite aux victimes en ce qui concerne leur démarche dans l'identification, la poursuite et la condamnation des auteurs des crimes conformément à la loi.
La ville d'Uvira fait face à ces jours à des incursions armées sans pareil. Plusieurs quartiers de la ville d'Uvira, notamment par exemple le quartier Kabindula, les quartiers Songo, les quartiers Kasenga, subissent des incursions répétées des hommes armés. Aujourd'hui, des jeunes sont régulièrement ciblés pour des simples vols d'objets de valeur qui entraînent d'ailleurs aujourd'hui des fusillades mortelles. Nous, mouvement citoyen Mathios Iaraï, nous proposons la création d'un fonds urbain d'indemnisation des victimes de l'insécurité dans la ville d'Uvira, destinée à accorder une réparation financière aux familles des personnes décédées ou gravement blessées lors de ces actes de violence, de banditisme bien sûr, ou d'autres crimes liés à l'insécurité. Nous demandons également à ce que ces mécanismes prévoient une prise en charge des frais funéraires des victimes, une indemnisation équitable des ayants droit conformément à la loi, un accompagnement psychologique et social des familles endeuillées, mais aussi une assistance juridique, afin que les auteurs de ces crimes soient poursuivi et condamné.
Moussa Ali Routamou au micro de Radio Maïndéleo. Et mesdames et messieurs, vous suivez Radio Maïndéleo à Bukavu et dans la ville d'Uvira, dans les territoires qui portent les mêmes noms. Dans un court instant, la suite de cette édition du journal.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations à temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est la Radio Maïndéleo. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
Changeons de chapitre à présent. Les peuples autochtones vivant autour du parc national de Kahuzi-Biega restent confrontés à plusieurs difficultés qui affectent leurs conditions de vie. C'est entre autres la pauvreté, la marginalisation, l'accès limité aux soins de santé et à l'éducation, ainsi que les problèmes liés aux droits fonciers et à leur participation aux instances de prise de décision. C'est ce qu'indique Maître Gentil Akilimali, coordonnateur du Centre d'espoir pour les droits humains CDH en sigle, à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones célébrée le 9 août dernier. Chaque année, Alain Kabika.
Pour lui, ces difficultés relancent les débats sur la place accordée aux communautés autochtones dans les décisions relatives à la gestion des ressources naturelles et des espaces avec lesquels elles entretiennent des liens ancestraux. Au-delà de la question de la conservation du parc, les défenseurs des droits des peuples autochtones estiment que les préoccupations de ces communautés doivent être prises en compte dans la recherche des solutions aux différents défis auxquels elles sont confrontées. Pour Gentil Akilimali, les dialogues avec les communautés concernées et leurs participants effective au processus de décision constitue des éléments essentiels pour parvenir à des solutions durables. On l'écoute dans ses propos.
Cette journée est une occasion de rappeler que les peuples autochtones ont droit au respect, à la dignité, à la protection de leur culture, de leur langue, de leur terre et de leurs moyens de subsistance. Nous pensons particulièrement aux peuples autochtones du parc national de Kahuzi-Biega, dont la situation demeure préoccupante. Leur histoire, leur culture et leurs liens ancestraux avec la forêt font partie du patrimoine de notre pays. Pourtant, de nombreuses familles bâtoises sont confrontées à la pauvreté, à la marginalisation. À l'occasion de cette journée, nous rappelons les autorités, les gestionnaires du parc national de Kahuzi-Biega, les organisations de la société civile, les partenaires au développement et l'ensemble de la communauté à placer les peuples autochtones au centre des décisions qui leur concernent, à promouvoir le dialogue et à la recherche des solutions durables, respectueuses de leurs droits et de leur dignité.
Cette journée internationale est célébrée cette année sous le thème « Rendre hommage aux sages femmes autochtones, protéger la vie et le bien-être ». Elle met notamment en lumière la contribution des femmes autochtones à la santé et au bien-être de leur communauté. Au Sud Kivu, les défenseurs des droits des peuples autochtones appellent ainsi les autorités, les gestionnaires du parc, les organisations de la société civile et le partenaire à privilégier des solutions durables, conciliant la conservation de la nature avec le respect des droits et de la dignité des communautés autochtones.
Et pendant ce temps, des habitants de plus de 6 villages des groupements des Bourales et en territoire de Walungu font face à une pénurie d'eau depuis plus de 2 semaines. Parmi ces villages, Fegir, Mukaza, Mubondwe, Changenyi, Tibanda et Tishan. C'est ce qu'indique la société civile du milieu dans un entretien avec Radio Maindelo le week-end. Cette structure souligne qu'après avoir bénéficié d'un projet de construction des bornes et fontaines de la part du comité pour l'autopromotion à la base CAB en sigle, l'eau a cessé d'écouler plus de 2 semaines. Actuellement, certains habitants parcourent des longues distances à la recherche de cette denrée vitale, alors que d'autres utilisent l'eau des rivières et celle issue des sources non aménagées. En cette période où la province du Sud Kivu fait face à plusieurs épidémies, la société civile des Bourales sollicite une intervention d'urgence pour apporter la solution à ces problèmes. Son président Joseph Babouine en parle.
On constate une pénurie d'eau au niveau de plus de 6 villages, au niveau du groupement des Bourales. L'eau n'arrive plus dans ces villages il y a plus de 2 semaines. Le témoignage du chef de village a pu constater ensemble, d'ailleurs on a visité plus de 5 bornes et on a trouvé que l'eau n'y coule même pas. Les structures sanitaires n'ont pas d'eau. La question reste pendante. Nous avons essayé de parler aux gens qui gèrent l'eau, le vice-président Beni Yakupita. Il me dira qu'ils vont prendre des précautions pour que l'eau arrive. L'eau n'a jamais atteint le point de chute Mubondwe. Il n'y a pas d'eau au chef-lieu du groupement, le point de chute de la ligne Mouambwe-Bourale. Demandons au comité d'Azurep qui gère localement l'eau ici de déployer ses techniciens afin d'identifier le problème et apporter solution à ce problème pour que la population continue à être servie.
Contacté à ce sujet, une source est proche de l'association des usagers d'eau potable Azuré Pensigle annonce qu'une équipe de techniciens est déjà déployée sur terrain pour décanter la situation. Et toute personne qui serait trouvée enfermée dans sa maison ou dans une maison de vente des boissons fortement alcoolisées pendant les heures des travaux communautaires dits Salongo sur toute l'étendue de l'avenue Bouolo Premier au quartier Mossala en commune de Kadutu sera soumise à des sanctions exemplaires. L'interpellation est du chef d'avenue Bouolo Premier Safari Moulikouza Justin dans un entretien avec Radio Maindelo le week-end dernier. Ce cadre de base dit avoir constaté que certaines personnes majoritairement des jeunes préfèrent s'enfermer dans leur maison au lieu de participer aux travaux communautaires, même devant leur propre maison. Il annonce qu'une équipe des cadres et des bases est déjà saisie quant à ceux et les récalcitrants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Le chef d'avenue Mouolo Premier, Safari Moulikouza Justin, en parle dans ses propos recueillis par notre confrère Alain Kabeka.
Nous sommes là pour sensibiliser la population, devons accompagner la population et contrôler si réellement le message que nous sommes en train de faire passer dans la population est bien exécuté. La population a compris que il fallait normalement assainir les milliers. Mais il y a une chose, messieurs les journalistes, nous observons qu'il y a certaines personnes qui s'enferment dans leur maison pendant les heures des salons. Je profite de votre micro pour leur dire que, en tout cas, l'État est révolu. Toute personne qui sera attrapée dans sa maison pendant les heures des salons, il sera puni sévèrement. C'est un message de la haute hiérarchie, de nos autorités provinciales, qui nous disent que toute personne doit faire les salons. Tu dois quand même travailler les devants et les derrière de votre maison. Dans le quartier Mossala, chaque fois qu'il y a des déchets, il y a des véhicules qui sont déjà disponibles, qui se transportent les mêmes déchets. Je profite aussi de votre micro pour sensibiliser la jeunesse. Nous observons qu'il y a des jeunes qui s'enferment dans des maisons de boissons. C'est inconcevable qu'un jeune s'enferme dans la maison en train de consommer la boisson pendant les heures des salons. Désormais, celui qui sera attrapé, il sera puni sévèrement.
Et avant la deuxième partie de cette édition du journal consacré au sport et à la revue de presse, l'Institut supérieur pour la promotion de la paix, du développement et de l'environnement, ISPDE en sigle, affiche un taux de réussite de 48% à la première session pour l'année académique 2025-2026. Ces résultats ont été rendus publics le samedi dernier à l'occasion de la cérémonie d'écollation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2025-2026 au Meur Moudé.
En croire le directeur général de l'ISPDE, le chef des travaux Jean-Jacques Adessur. Oui, l'institution a enregistré 78 étudiants finalistes au début de l'année, mais plusieurs abandons ont été constatés durant le parcours. Cette situation est liée notamment aux difficultés socio-économiques auxquelles font face de nombreuses familles, indique-t-il. Malgré ces contraintes, le conseil de gestion de l'établissement s'est dit satisfait de ses résultats. Pour Jean-Jacques Adessiroué, ses taux de réussite restent encourageants et ouvrent de bonnes perspectives pour l'ISPDE. Pour la prochaine année académique, le directeur général annonce le renforcement de la qualité des enseignements. L'accent sera notamment mis sur l'acquisition des compétences, la formation pratique, les travaux individuels et de terrain, ainsi que sur la recherche scientifique, a-t-il indiqué. Cette orientation vise à rapprocher davantage la formation académique des réalités du terrain, dans le souci de permettre aux étudiants de développer des compétences, favorisant leur insertion professionnelle, ainsi que leur capacité à entreprendre et à créer des emplois. Dans cette perspective, la direction de l'ISPDE appelle les lauréats à mettre leurs connaissances au service de la communauté et à faire preuve d'initiative. Le chef des travaux Jean-Jacques Adessiro en parle.
Les résultats sont moyennement intéressants et parce que en au départ, on avait 78 finalistes. Bien qu'il y ait eu des déperditions et beaucoup de difficultés des étudiants de se déployer à l'œuvre comme il s'est devé autour de toute la précarité que connaissent les parents au plan socio-économique. Mais notre satisfaction est grande qu'on ait réussi à 48%. C'est de bons résultats pour nous et qui donnent des bons augures.
De leur côté, les lauréats se disent satisfaits du parcours accompli et attendent mettre leurs connaissances au service de la société. C'est notamment le cas d'Emmanuel Mouguichou, finaliste en sciences environnementales et du développement durable. Dans le département de développement durable, il affirme vouloir devenir créateur d'emplois plutôt que de se limiter à en rechercher.
Nous avons obtenu des diplômes pour créer du boulot. Nous voulons devenir des créateurs d'emplois et non des commandeurs d'emplois. Mes sentiments, c'est vraiment des satisfactions pour avoir terminé cette année. Ça n'a pas été facile, mais comme nous sommes parvenus, c'est pourquoi vraiment la joie est immense aujourd'hui de terminer l'année en beauté.
La cérémonie a également été l'occasion pour la direction de l'ISPDE d'encourager les nouveaux candidats à rejoindre l'établissement. Les portes restent ouvertes pour les inscriptions au titre de la prochaine année académique, a indiqué le directeur général de cet établissement, le chef des travaux Jean-Jacques Adessiroué.
Merci Omer Moudé-Kereza et merci de nous suivre en direct au terrain annexe du Stade des Martyrs à Kinshasa sur le www.radiomandela.org. À présent, nous parlons sport.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maïdéléou. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
L'équipe de Kajangu FC est sacrée championne d'un tournoi de football dénommé Champions League organisé au terrain des Founou à Chimpunda en commune de Kadutu. Kajangu FC s'est adjugé la coupe en battant en finale le samedi dernier GSP Sport sous le score de 2-1. Dès le début du tournoi, Kajangu FC s'est montré particulièrement performant et déterminé. Après la finale, les organisateurs ont primé les meilleures équipes du tournoi, à savoir les champions, les finalistes malheureux et enfin les équipes de Kalere A et Kalere B qui ont atteint l'étape de demi-finale à la même occasion. Les meilleurs buteurs de la compétition, Degol Mukisi, a été récompensé pour avoir réussi 5 réalisations dans ces tournois. Signalons qu'au total, 16 équipes de Chimpunda ont participé à cette compétition lancée depuis le 29 juin dernier. Pour rappel, depuis plusieurs décennies, ils s'organisent chaque année au terrain des Founou un tournoi de football qui regroupe les équipes des communautés ecclésiales vivantes CV dit Chirika de la paroisse de Chimpunda. Ces tournois exposent les talents cachés de plusieurs coins de la ville de Bukavu et met en vedette les joueurs de l'entente urbaine de football de Bukavu et ceux évoluant sous d'autres cieux.
La revue de presse. Radio Maïndéléou capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Et avec vous Myriam Moufano, l'état de délabrement avancé de la route et reliant le lycée Wima au parking de l'hôpital Dr. Ro de Tiriri et les conditions dans lesquelles vivent les femmes enceintes dans les zones touchées par les conflits armés font partie des sujets commentés par la presse le week-end dernier.
À de Biton, c'est très vu de presse par jambouéradc.info qui écrit « La route reliant les lycées Wima au parking Docteur Ro dans les quartiers Tchureri, commune de Bagira à Bukavu, se dégrade davantage. Des nombreux nids des poules rendent la circulation difficile et exposent les usagers à des risques d'accident. Les habitants et usagers craignent une aggravation de la situation avec les retours des pluies, alors qu'aucun entretien conséquent ne semble avoir été effectué sur ces tronçons, malgré les taxes et assurances payées par les chauffeurs. » Cette dégradation a été mise en évidence dans la soirée du vendredi 7 août 2026, lorsqu'une ambulance de l'hôpital général de référence Docteur Rode Tchiriri a eu un accident au niveau des Boussoka. Elle était en mission pour aller chercher un malade dans une autre structure sanitaire. Les chauffeurs et l'accompagnateur ont été victimes de l'accident et pris en charge pour recevoir les soins appropriés. Face à cette situation, la nouvelle dynamique de la société civile de Tchiriri appelle les autorités compétentes à intervenir urgemment pour réhabiliter ces tronçons et améliorer la sécurité des usagers. Elle sollicite également l'appui des autorités, des responsables sanitaires, de partenaires et personnes de bonne volonté pour réparer ou remplacer l'ambulance accidentée. De son côté, Africa News écrit: l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo continue de faire de nombreuses victimes, particulièrement les enfants. Selon l'UNICEF, plus de 300 enfants sont morts depuis le début de l'épidémie. Les mineurs représentent près d'un quart des cas confirmés, mais environ un tiers des décès enregistrés. Le bilan global dépasse désormais 4000 cas pour 1850 décès. L'épidémie perturbe également l'accès aux soins essentiels. Dans les zones les plus touchées, la fréquentation des structures sanitaires a chuté de plus de 40% à raison de la peur de la contamination. En Ituri, par exemple, poursuit ces médias, cette situation affecte notamment les femmes enceintes, avec un nombre de décès maternels qui aurait presque doublé depuis le début de l'épidémie, soit environ 6 décès par semaine liés aux complications de l'accouchement. L'OMS recommande quant à ça le lancement en République démocratique du Congo d'un essai clinique du vaccin Ervabo, c'est le vaccin homologué contre Ebola. Parallèlement, les efforts de sensibilisation se poursuivent avec la mobilisation des 13 000 agents communautaires. Ceux-ci ont déjà sensibilisé plus de 2,4 millions de personnes et effectué plus de 500 000 visites à domicile pour renforcer la prévention, lutter contre la désinformation et encourager les recours précoces aux soins, conclut Africa News. Bouclons cette revue de presse par KivuTimes.com qui indique qu'à Uvira, les femmes enceintes vivant dans les zones touchées par les conflits rencontrent de sérieuses difficultés d'accès aux soins maternels. L'insécurité, le rupture de médicaments, le manque d'équipement et les personnels soignants, ainsi que les difficultés économiques, limitent les consultations prénatales et les accouchements sécurisés, exposant davantage les mères et les nouveau-nés. Selon Tony Moussoboa, expert en genre et mobilisation communautaire contacté par ces médias, ces insuffisances peuvent entraîner des complications obstétricales prises en charge tardivement, des accouchements à domicile sans assistance médicale, ainsi que des infections et des hémorragies évitables. Abigail Bitendo de l'organisation Genre Actif pour le Développement Meilleur souligne pour sa part que les déplacements liés au conflit éloignent les femmes de structures sanitaires et que les traumatismes affectent également les suivis des grossesses. Face à ces difficultés, les acteurs de la santé appellent les autorités et les partenaires humanitaires à renforcer l'approvisionnement en médicaments et équipements, à augmenter les personnels qualifiés dans les maternités et à rapprocher les services des populations déplacées. Ils recommandent également d'intensifier la sensibilisation communautaire et l'information sur les coûts des soins afin de faciliter l'accès aux services maternels et de réduire les risques pour les mères et les nouveau-nés, conclut KivuTimes.com.
Et c'est par cette note que nous mettons un point final à cette session d'information matinale sur Radio Maïndéléo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi avec attention. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Pas d'habitants depuis le vendredi dernier au centre de Lumbishi en territoire de Calais. Les habitants ont vidé les lieux après des bombardements qui ont provoqué la mort d'au moins 7 personnes et une dizaine de blessés pris en charge au centre hospitalier de Numbi. Et création d'un fonds urbain d'indemnisation des victimes de l'insécurité, le mouvement citoyen Machos Yaraïa à Uvira lance ses plaidoyers dans un contexte marqué par la recrudescence de l'insécurité dans cette ville à forte présence militaire. Les responsables de ces structures citoyennes évoquent notamment les soucis de protéger la vie et les biens des citoyens, une responsabilité de l'État. Et un sport tournoi de football dénommé Champions League organisé au terrain des Founou en commune de Kadutu, le FC Kadjangou est sacré champion après sa victoire en finale samedi dernier face à GSP Sport sous le score de 2-1. La mise en onde était celle d'Alain Zar à la présentation Héritier Boroto. Excellente matinée et bonne humeur chez vous en compagnie des programmes de Radio Maïndéléo. Tout à l'heure, cette même édition en version Swahili avec notre confrère Alain Kabika. Retrouvez-la donc sur les www.radiomaïndéléo.org. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout de vos proches. Chaque jour est une vie. Au revoir.